Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Maxime, notre premier futur papa dans Histoire de Daron. On a vu Cédric dans l'épisode 4 qui était un tout jeune papa de quelques jours, mais je voulais capturer, entre guillemets, les émotions d'un papa en devenir. Je pense que les futurs darons peuvent passer par tellement d'émotions différentes au cours des 9 mois de grossesse, en tout cas ça a été le cas pour moi, que ça pouvait être intéressant d'avoir le récit de Maxime qui sera papa en décembre 2018. Alors petite annonce rapide avant d'aller plus loin, si vous écoutez ce podcast avant le dimanche 21 octobre 2018 et que vous êtes à Paris, vous pouvez venir assister au premier enregistrement live d'Histoire de Daron. Ça se passera à la Gaîté Lyrique le dimanche 21 octobre 2018 à 14h et ça sera dans le cadre du Paris Podcast Festival. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous l'écoutez après, ne vous inquiétez pas, normalement vous devriez pouvoir trouver le replay dans un des épisodes suivants. Si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone, Podcast Addict ou Google Podcast sur Android, mais aussi vous pourrez retrouver Histoire de Daron sur Deezer, Spotify, SoundCloud et même sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes du podcast. Si le concept vous plaît, vous en parlez autour de vous s'il vous plaît, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Mais bon, j'ai assez parlé, encore une fois, je vous laisse en compagnie de Maxime. Et on est avec Maxime.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, bonjour. Si tu veux. Il est 11h, mais comme
exactement.
Tu le souhaites. Ça va nous permettre de rentrer direct dans le sujet. Le mec est complètement déphasé. Pourquoi ? Parce que on a, pour la première fois dans l'histoire de Daron, un vrai futur papa.
Ouais, fin décembre.
Oh my god.
Ouais. Ouais, le flip total, intégral.
Maxime, est-ce que tu peux te présenter un peu ?
J'ai 27 ans et ça a son importance parce que, en plus d'être un futur papa, je suis un jeune papa. Et je suis. Entrepreneur dans la presse. Voilà, j'ai monté un média qui s'appelle 8ème étage il y a 4 ans. Et là, je suis en train de monter un autre projet vidéo qui verra le jour bientôt sur YouTube. Donc, si ça vous intéresse, voilà.
Bref, on mettra des liens.
On mettra des liens.
Le mec monte plein de projets en même temps. Il monte à la fois un enfant ainsi qu'un projet.
Ouais, et l'enfant me fait vachement plus flipper que tout le reste. Mais ouais. Ouais.
Alors, je vais commencer à faire mon vieux con et mon daron, si tu veux, mais vraiment, donc j'ai monté Mademoiselle il y a 13 ans maintenant, et donc aujourd'hui, il y a 25 salariés, enfin, c'est devenu une vraie entreprise, entre guillemets.
C'est plus, mon rêve.
Voilà. Bah, je ne sais pas si... oui, c'est un truc qui... C'était long à faire, mais j'y suis arrivé. Et monter Mademoiselle, là où c'est devenu aujourd'hui autofinancé, etc., c'est... du pipi de chat à côté de l'idée que j'ai de faire des enfants bien, en tout cas de réussir entre guillemets ces enfants et d'en faire des adultes responsables. Quoi. Donc,
ça ne me rassure pas
comprends.
Du tout.
Mais, oui, mais en même temps, tu as décidé d'y aller, je veux dire,
ouais,
tu as étudié.
Bien sûr. Mais tu sais, c'est... Il y a cette phrase qu'on a déjà entendue dans 150 épisodes d'Histoire de Daron, mais c'est pas pour rien. C'est... En fait, moi j'entends... depuis tellement longtemps, mais on n'est jamais prêt à avoir un enfant, que du coup, je me suis dit, bah, je suis pas prêt, mais du coup, comme c'est le cas de tout le monde, bah, je vais y aller aussi. Et il y a un moment où tu te dis, oui, mais alors, soit t'es pas prêt parce que c'est comme tout le monde, soit t'es pas prêt parce que t'es vraiment pas prêt. Et non, et en fait, je pense que ça va. Je pense que ça va. Non, mais on peut pas savoir, mais
bien
non,
sûr,
je pense que ça va aller. Déjà parce que. Parce que je pense que mon enfant aura la meilleure des mères et ça, c'est hyper important.
Oh.
Ouais. Non, mais c'est cool, c'est important.
C'est toujours mieux. C'est pas Orelsan qui dit c'est mieux de faire un enfant avec quelqu'un qu'on connaît.
Ouais.
Simple.
Ouais, basique.
Petit disclaimer pour les auditeurs, c'est qu'on se connaît depuis longtemps, en fait.
Bah ouais.
Ça fait. Je pense que t'avais 20 ans ouais. Quand on s'est rencontrés.
Ouais, quand on a... Alors, la première fois, on s'est même pas rencontrés. Oui. On a fait une interview Skype parce que je voulais rejoindre le projet masculin voilà. de Mademoiselle.
C'était il y a fort longtemps.
C'était il y a fort longtemps. Moi, j'étais en stage à Mulhouse, aux dernières nouvelles d'Alsace à l'époque. Donc, je faisais plutôt de la fête à la saucisse en termes de production journalistique à l'époque. Et je me souviens que ça avait été un entretien hyper stressant. J'avais écrit un truc qui était totalement nul à chier que je t'avais envoyé. Et cet entretien avait été très, très, très flippant.
Et comme c'était nul à chier, j'avais décidé de te contacter parce que c'est normal.
Et d'arrêter le projet, du coup.
Mais pas tout. C'est sûr que c'était en rapport avec toi.
Bien sûr, tout c'était en rapport avec moi. Je suis le nombril du monde.
Tout ça pour dire qu'on se connaît depuis un petit moment. Et ouais. Tu m'as envoyé un petit message il y a quelques mois pour me dire « Je vais être papa !»
Ouais, t'es parmi les premiers à qui je l'ai dit.
Oh, trop bien, merci.
Ouais.
Avant tes parents ?
Ouais.
C'est pas vrai.
Avant la mère de l'enfant. Ouais, non, je sais pas. Moi, j'ai trouvé génial que tu crées Histoire de Daron. J'en avais jamais écouté avant d'apprendre que j'allais être père. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, ma copine qui s'appelle Lisa... je vais dire Lisa parce que ce sera plus simple.
Sera plus simple.
A fait une fausse couche en fait avant que ça fonctionne.
Ok.
Et du coup ça a conditionné plein de choses. Alors Maxime, quand est-ce que vous avez décidé d'avoir un enfant, Lisa et toi?
Bah écoute, un sup. Ne fais pas ça.
Non mais en gros. Parce qu'il faut que je réponde à ça pour commencer à t'expliquer le cheminement.
Mais si t'arrêtes de piquer mes questions, laisse-moi ma place, monsieur.
Pardon. En fait, Lisa a 11 ans de plus que moi. Elle a 38 ans. Et quand on s'est rencontrés, elle en avait 35. Et en fait, très rapidement, elle a fait... ce que j'estime être une connerie, mais que en fait, si ça a continué entre nous, c'est que ça devait. Mais ça faisait très peu de temps qu'on était ensemble, et elle m'a dit un soir, en fait, tu veux qu'il se passe quoi entre nous? Parce que moi, je te préviens, j'ai 35 ans, j'ai plus énormément de temps avant moi, et j'ai plus de temps à perdre pour faire des enfants. Donc, si jamais
tu veux juste batifoler,
c'est pas la peine. Mmh. Vaut mieux qu'on s'arrête tout de suite. Voilà, donc
pourquoi t'estimes que c'est une connerie?
Bah parce que j'estime que c'est pas forcément un truc à dire quand ça fait 2 mois que t'es avec quelqu'un, que en plus il y avait la différence d'âge qui faisait que on savait pas trop. Elle a mis énormément de temps à venir vers moi parce que elle était souvent sortie avec des hommes qui étaient plus âgés qu'elle. Moi, c'est hyper drôle, mais en fait, moi, attends, on va commencer à rentrer dans une séance psychologique.
Allonge-toi si tu veux.
Ah, je vais m'allonger sur le canapé. Non, mais moi, j'ai toujours été en surpoids toute ma vie. En fait, à l'âge de 24 ans, j'ai atteint 98 kilos. Et donc, je me suis dit, ouais, soit je vais taper la barre des 100, j'essaye de me mettre un peu à.
Mais t'es grand, enfin,
je fais 1m77, quoi, c'est pas. 1m78, c'est pas incroyable non plus.
Okay.
Et du coup, je me suis vraiment mis à faire un régime de dingue, mais même à réapprendre à bouffer. Je faisais 8 heures de sport par semaine, enfin, la salle, c'était ma deuxième maison, voilà. Et donc, je suis passé de 98 kilos à 68 kilos, ce qui était. Même trop peu, je pense. Je pense que c'est pas mon poids de forme. Mais bref, en gros, au bout d'un an et demi de travail acharné, parce que c'est vraiment, ça devient... moi, j'avais considéré ça comme un travail, c'est-à-dire que, voilà, comme je suis entrepreneur, je fais un peu mes propres horaires et tout ça, mais une séance de sport, c'était comme une réunion. Il n'y avait pas de « j'irai si j'ai le temps ». C'est « j'irai » et s'il y a un autre truc qui se pose, bah, c'est l'autre truc que je décale parce que moi, le sport, il faut que j'y aille. Et en fait, au bout d'un an et demi de travail acharné, j'ai réussi à atteindre un objectif que je m'étais fixé. Et c'est très important parce que, comme toute personne, comme tout mec qui a été gros un peu toute sa vie, je me suis pris énormément de râteaux pendant toute ma vie par des filles qui disaient « Ah bah non, t'es trop gros !» Ou alors « Ouais, ouais, ah oui, non, mais
aussi
ouais, clairement. »
Cache que ça.
Ouais, aussi okay, cache que ça. D'accord. Il y en a eu comme ça, sinon ça se disait pas. Il y en a une qui me l'a dit cache. Et puis même, sinon, j'ai toujours eu le syndrome du meilleur ami, tu sais. Parce que
oui.
Un mec qui communiquait énormément. Et du coup, j'étais le meilleur ami de toutes les filles que je rencontrais. Et ce qui fait qu'en fait, bah, évidemment, toute ma vie, je m'étais dit, c'est parce que je suis gros, que... parce que aussi pop culture, les sitcoms, oui, et tout ça, tu vois, dans la pop culture, le petit gros drôle et sympa, bah, c'est le meilleur ami, pas forcément le mec qui chope. Et donc je suis arrivé à 25 ans à ce poids absolument incroyable où j'avais refait toute ma garde-robe, j'étais hyper, hyper stylé avec des super fringues, machin et tout ça. J'ai rencontré Lisa à l'anniversaire d'un pote, alors qu'à l'époque j'étais vraiment à me dire, en fait, j'ai jamais chopé comme tous les mecs, j'ai jamais eu 1000 relations. Et ça y est, maintenant, ça va commencer, c'est cool. Je pense que j'ai besoin de ça aussi avant de me caser. Et j'ai rencontré Lisa. Et en fait, je me suis dit, pourquoi c'est la fin de la route.
Voilà,
c'est fini. En fait, c'est la bonne. Et ça, c'est juste, je me suis dit, on m'avait toujours dit, tu rencontreras la bonne quand tu t'y attendras pas. Et je m'étais toujours dit, en fait, moi, je suis tellement en recherche de relations. J'étais un peu le Ted Mosby de mes potes à me dire, je vais rencontrer. Voilà, à chaque fois, je me disais, allez, je cherche plus. Le karma, je cherche plus. Donc, tu peux me présenter quelqu'un. Alors qu'en fait, je continuais de chercher tout le temps. J'arrivais pas. Et du coup, je me disais, moi, ça m'arrivera pas. Et en fait, ça s'est produit, mais pas comme je l'attendais. C'est-à-dire que je continuais à chercher des relations, mais je cherchais absolument pas un truc sur le long terme. J'ai rencontré Lisa et donc ça s'est fait un peu difficilement parce que elle était à Paris et moi à Lyon, elle avait 11 ans de plus que moi, c'était pas du tout ce que je recherchais, elle était sortie qu'avec des mecs plus vieux et finalement...
Quand tu dis que c'était pas du tout ce que tu recherchais, tu cherchais une fille de ton âge, c'est ça que tu veux
dire ?
Non,
à la base, à cette époque-là, je cherchais vraiment des
Tu cherchais à...
Je cherchais à batifoler, oui, ce que j'avais jamais fait de ma vie, en fait. Et que j'avais jamais fait parce que je pensais que c'est parce que j'étais gros. Et donc voilà.
Mais c'est à peu près normal et logique, en fait, qu'au bout de 2 mois où vous êtes en train de sortir ensemble, elles finissent par mettre les cartes sur la table. En tout cas, je trouve que c'est assez sain comme question.
Ouais, je pense, mais en tout cas, cette prise de conscience de OK, c'est bon, j'ai trouvé la bonne, elle n'est pas arrivée ce soir-là. Ça, on n'a pas eu de coup de foudre. Elle est arrivée. Quelques mois plus tard, on a commencé à sortir ensemble en août. Et en fait, moi, je lui ai dit que je l'aimais en mars. Et elle s'est rendue compte qu'elle m'aimait en février. Et en fait, elle a attendu que je lui dise. Et ça s'est joué à un mois, on a eu du bol. Quand 2 mois après qu'on ait commencé à sortir ensemble, elle m'a dit « Ouais, moi, c'est si t'es là pour me faire perdre mon temps, c'est pas la peine ». J'étais pas prêt du tout encore et moi j'étais vraiment à me dire on va voir où ça nous mène, on se connaissait pas, enfin
oui, c'est une bonne épreuve du feu, je trouve.
Ouais, c'est une bonne épreuve du feu. Et donc en fait on s'est dit, moi, à partir du moment où je lui ai dit que je l'aimais et qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait, je savais que j'allais être père plutôt que ce que j'avais prévu, parce que moi je m'étais dit, ah, j'ai 25 ans, moi je pense être père vers 30, 33, 35, mais pas avant 30, c'est sûr et certain. Moi, je vois pas ma vie comme ça. Et en tant que bon entrepreneur, je suis un peu contrôle fric aussi à mettre, tu sais, j'ai un rétro-planning, il y a des choses qui tombent, et c'est un peu pareil dans la vie.
Tu sais très bien que les rétro-plannings sont faits pour bouger.
Oui, c'est ça, carrément.
C'est un entrepreneur. Le rétro-planning de la vie, encore plus.
Encore plus. Et donc voilà, donc j'ai su que je serais parent plus tôt. On en a plus trop parlé après pendant un moment, jusqu'à l'été 2017, donc l'été dernier, où on est parti en vacances avec des potes. Et là, j'ai un de mes potes qui est à mon âge, qui un soir nous a dit « Les gars, je vais être papa ». Et là, on s'est dit « Waouh, mais quoi ? Comment ça ?» Ouais, bah voilà, avec Marie, donc sa copine, on va être parents, il nous a raconté tout ça, on était morts de rire, on trouvait ça trop bien, c'était génial. Et Lisa était là, on était en vacances tous ensemble, et on est rentrés. Et en fait, Lisa m'a dit, écoute, moi en fait, je voulais pas être la vieille qui te fait avoir un enfant alors que t'es pas prêt et tout ça. Et en fait, ça m'a décoincé, ça m'a débloqué que Flo devienne papa et... Du coup, je pense que je suis prête et je lui ai dit, moi, je suis je suis pas prêt, mais en tout cas, ouais, je veux bien qu'on essaye, on va voir. Et donc, elle est tombée enceinte une première fois, hyper rapidement. Premier coup, premier essai, on a eu énormément de bol. Lisa est hyper angoissée et du coup, déjà, elle était dans le délire. Ça se trouve, ça va mettre des années, de toute façon, on essaye maintenant, mais ça se trouve, ça va mettre 2 ou 3 ans, parce qu'évidemment, elle voit le verre à moitié plein tout le temps. Donc, j'étais là, non, mais il n'y a pas de raison. Puis moi, je lisais des trucs, je lui disais, tu sais, j'ai lu un article qui dit que, parce qu'elle était là, oui, moi, j'ai déjà 37, donc, et je lui disais, ouais, mais tu sais, il n'y a pas que l'âge de la femme qui compte, il y a aussi, moi j'ai des spermatozoïdes de mecs de 26 ans, du coup peut-être que ça joue aussi. Elle était là, ouais, peut-être, ok, on va voir. Mm-hmm. Et en fait, 3 semaines plus tard, elle était enceinte. La première grossesse a été hyper compliquée, dans le sens où... alors, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de dire ça, mais... parce qu'il y a eu des articles sur Mademoiselle là-dessus, donc voilà, Lisa a l'angoisse de vomir, voire même la phobie
qu'on appelle hémétophobie.
C'est un truc dont elle a honte et je sais pas pourquoi elle a honte de ça, parce qu'en fait, je trouve pas ça plus honteux que l'arachnéophobie ou n'importe quelle autre phobie. Enfin, je veux dire, on a tous des faiblesses et des phobies, c'est pas grave, hein, on n'est pas invincible. Donc voilà, et donc évidemment, pour quelqu'un qui est hémétophobe, la grossesse, et notamment les 3 premiers mois qui sont sujets à nausées et tout ça, c'est un enfer. Donc elle a eu très très peur de ça, et ça a été 3 mois qui n'ont pas été faciles du tout. Et on était hyper contents d'arriver à la fin des 3 premiers mois. Et pas de bol, fausse couche, et puis fausse couche à 3 mois, donc intervention médicale à la clinique, etc., anesthésie générale, enfin... Donc ça a été très compliqué, surtout que, comme Lisa avait eu beaucoup d'angoisse pendant ses 3 premiers mois, elle pensait que c'était à cause de ça, donc elle s'est mise à culpabiliser beaucoup, avoir des moments où elle était tellement angoissée qu'elle se disait... mais est-ce que je veux vraiment avoir un enfant ? Peut-être que non. Et du coup, après, à penser que c'est parce qu'elle avait pensé qu'elle ne voulait pas d'enfant une fois que du coup... mais ça, c'est, je pense que c'est un peu le... Je pense que c'est commun un peu à et c'est, à mon avis, catastrophique, mais c'est commun à toutes les femmes qui font des fausses couches de penser qu'elles sont responsables, que c'est de leur faute, quoi. Alors que moi, je lui disais... c'est le temps que la machine se mette en route aussi, c'est normal, tu vois. Et puis, surtout... la proportion de femmes qui font une fausse couche à la première grossesse, mais elle est incroyable, c'est 1 femme sur 2, quoi. Mais du coup, après, voilà, tu rentres dans le sac de « oui, mais du coup, j'ai eu une fausse couche, je vais peut-être en avoir une deuxième, une troisième, et puis peut-être qu'en fait, voilà. » Moi, j'avais rencontré j'avais bu un verre avec un pote journaliste qui m'avait dit « tu sais, il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches où, en fait, on pense que c'est la femme qui a un problème, et en fait, c'est les spermatozoïdes du mec... qui ont un souci, qui sont pas assez résistants ou pas assez rapides et tout ça, donc peut-être que... Donc moi j'étais là, il était là, ouais, attendez pas qu'elle fasse 2 ou 3 fausses couches pour consulter, essayez de voir tout de suite, comme ça au moins vous perdez pas de temps. Elle était là, tu te rends compte, du coup je vais pas être maman à 37 mais à 38, voilà, enfin bref.
Comment tu gères tout ça, toi?
Moi je parlais beaucoup. En fait, voilà, on a fait l'erreur aussi d'annoncer la grossesse très vite. Dès qu'on le savait, on a commencé à le dire à des potes et tout ça. L'avantage, c'est que du coup, moi, j'avais des potes qui étaient au courant et j'avais notamment un très bon pote que je voyais très souvent et à qui je disais... je lui racontais, je lui disais « En ce moment, c'est dur, ça va pas. » L'avantage aussi, c'est que je pense qu'un couple qui surmonte une fausse couche, c'est un couple qui peut tout surmonter après, parce que j'ai vraiment vécu des moments d'enfer pendant ces 3 mois, mais à aucun moment je me suis dit « Ouais, en fait, c'est fini, genre je la supporte plus, faut qu'on se sépare et tout ça. » Enfin, à aucun moment je me disais. Et même quand elle a eu sa fausse couche, je me suis dit bon, bah, va y avoir de nouveau 3 mois chiants. Mais c'est pas grave, parce que c'est quoi 3 mois dans une vie? Enfin, on s'en fiche, quoi. En vrai, c'est bon, ça va être OK. Et puis, puis on va prendre sur soi, et puis ça va aller.
C'est un peu l'épreuve du feu pour le couple aussi, ouais. ce genre d'épreuve difficile.
Ouais, vraiment. Vraiment. Et puis, il y a l'après aussi. Il y a l'après-intervention chirurgicale où vraiment...
Comment tu te retrouves, quoi?
Ouais, comment tu te retrouves? Comment... Il y a ce truc qui est horrible d'une femme qui se dit... Parce que nous, on a eu du bol. L'intervention s'est passée 24 heures après qu'elle ait... 24 ou 48 heures après qu'elle ait découvert qu'elle avait fait une fausse couche. Ma sœur a fait une fausse couche. Elle a passé 6 jours, je crois, parce qu'elle était en vacances. Elle a passé 6 jours en sachant... Parce que les femmes enceintes, tout après, disent... En fait, je savais que j'avais fait une fausse couche. À ce moment-là précis, j'ai su... Lisa, ça a été dans la nuit de samedi à dimanche. Le dimanche, elle est allée aux toilettes et il y a un petit truc qui est tombé. Et on s'est dit, c'est bizarre. Et ma sœur, c'était. Elle partait en voiture pour aller chez mon frère. Et genre, sur le chemin, en conduisant, elle pleurait et elle parlait à son bébé en lui disant, tiens le coup, tiens le coup. Ouh. Tu vois, c'est,
wow.
C'est un truc qui est bien, bien vénère. Ma sœur, elle a passé 5 jours avec le petit bébé qui n'est plus en vie à l'intérieur avant d'avoir une intervention. Lisa, elle a eu du bol, elle a passé que 2 jours, quoi. Mais après, voilà, tu passes un bon moment à dire, bon, bah voilà, j'avais un bébé mort à l'intérieur, tu vois.
Oh.
Bon, voilà. Ouais. On va peut-être essayer de passer sur un truc un peu plus gay après, ouais, mais voilà, ça fait partie du truc aussi.
J'allais dire.
Ça fait partie des mauvais moments. Mais donc voilà, donc Lisa a attendu janvier, février en disant voilà, comme ça on laisse passer 1 ou 2 cycles histoire que tout se répare un peu à l'intérieur. En mars, moi j'ai pas mal voyagé, j'étais pas mal à l'étranger, et du coup Lisa est un peu vénère à me dire ouais, tu fais chier, du coup tu seras pas là quand j'ovulerai, machin. J'étais désolé. Et puis non, et puis finalement, non, on a réussi à passer un peu de temps ensemble, et pareil, on a essayé une fois et ça retombait direct. Donc non, mais Lisa est hyper fertile, enfin elle est tombée enceinte à 25 ans sous contraception, enfin accident de capote, mais sous pilule. Donc oui. Voilà, elle est de ce côté-là, il y a pas de souci, on a de la chance pour ça. Et donc voilà, donc ça fait maintenant 6 mois, elle entre dans le 6e mois de grossesse.
Alors,
c'est fou.
Alors, je ne savais pas. En fait, avant que quand tu m'as contacté, tu m'as pas raconté cette histoire de fausse couche.
Ben non, parce que tu veux pas qu'on te raconte des trucs avant.
C'est vrai. Mais comment ça se passe quand ça revient? J'imagine qu'il y a aussi une forme d'appréhension. Peut-être vous l'avez pas annoncé. Tout de suite.
Ah non, non. Voilà. Là, pour le coup, on a vraiment attendu 3 mois révolus. En fait, ce qui est incroyable, c'est que la première grossesse n'a rien à voir avec la seconde, mais vraiment. Et en fait, c'est presque comme si. C'est presque comme si, au fond de nous, dès le départ, on s'est dit la première grossesse, il y a peu de chances qu'elle marche, enfin, on ne savait pas trop. Et la deuxième, pour le coup, on était là. Là, c'est bon. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées différemment. Il y a un truc qui a peu été abordé dans Histoire de Daron, c'est la vie sexuelle pendant la grossesse, qui est pour moi un truc hyper important. Et pour le coup...
C'est pour ça que je veux t'avoir, tu comprends, bah, parce que les autres, on se souvient plus.
Voilà,
c'était il y a longtemps.
Moi, je parle de cul, hein, on va pas... Non, mais... par exemple, pendant la première grossesse, moi, j'avais énormément de mal à avoir envie de faire l'amour parce que
le fameux truc,
ouais, le fameux truc du hey, il y a un bébé à l'intérieur, mec, c'est pas, tu fais pas ça, il y a pas de, et genre t'as beau avoir les trucs, tu lis les trucs de
est-ce qu'on peut rétablir la vérité,
ouais,
tu n'as pas un sexe si énorme que
alors,
ça Maxime.
Ça on en parlera dans un boys club avec Mimi quand on parlera de mon rapport à ma tub, mais
ce que je veux dire, c'est que avant de pouvoir,
oui. Non.
Toucher l'enfant qui, oui, se trouve en plus, enfin le fœtus qui se trouve en plus
Ouais, et puis qui pendant les trois premiers mois fait genre la taille d'une cacahuète.
Voilà,
quoi,
donc, qui voilà. se trouve dans l'utérus, ouais. qui est protégé par le... Non, vraiment, calmez-vous.
Ouais, non, non, non.
Alors
c'est
après,
clair.
C'est une peur très banale, commune, je pense. Ouais. C'est très compréhensible en plus.
Ouais, ouais, ouais. Je pense pas être un cinglé fini en ayant peur de ça.
J'ai mais aussi, t'inquiète.
Mais voilà, tu vois, il y a le truc de tu te dis... T'as peur d'être dans un truc malsain, même si tu lis partout que bah non, c'est ok, tu vois, détends-toi. Et ce qui est très étrange, c'est que pas du tout la deuxième fois. La deuxième fois, vraiment, ça m'a posé aucun souci. Et je me disais, ça me pose pas de souci au début parce que le ventre est pas encore visible, donc voilà. Et même après, quand le ventre était visible, parce que attention, petit spoiler, mais à tous ceux que ça intéresse. Oui, le ventre devient visible, mais les seins triplent de volume aussi. Donc, l'un dans l'autre, c'est intéressant.
Il faut prendre le bon.
Voilà, c'est ça.
Et t'es pas encore au point où...
Vas-y.
Est-ce que je te spoil ou pas?
Vas-y, spoil-moi.
Moi, le truc qui m'a vraiment fait le plus bizarre, c'est quand, vers vraiment la fin de la grossesse...
Le bébé bouge.
Le bébé bouge, et non seulement le bébé bouge, mais en plus, donc, t'as vraiment cette sensation parfois de faire l'amour à trois. C'est vraiment très étrange parce ouais. que tu sens le bébé contre toi à un moment donné. Et surtout, quand ta femme a un orgasme, et ça, c'est un truc qu'une ouais. gynéco nous a expliqué, c'est que ça délivre de l'endorphine. Et en fait,
le bébé qui faucille.
Voilà, il est en plein, mais c'est même pas qu'il faucille, c'est-à-dire que lui, il est en source directe. Ouais. Donc, il prend tout, et en fait, c'est la fête du slip, quoi. Vraiment, au taquet.
Est-ce que ça influe après sur... genre, tu sais, il y a des trucs, on le dit parfois, ah non, mais lui, il est hyper sociable, ou elle est hyper sociable, elle a été à la crèche, tu vois. Et genre, il y a peut-être un truc de... Non, mais lui, il est hyper cool et souriant. Ouais, lui, il a vécu plein d'orgasmes pendant qu'il était
Alors,
dans le ventre.
Je ne sais pas s'il y a eu des études sur le truc, tu sais, le suivi ouais. de... Ok, en fait, vous faites en sorte de baiser les ouais, futurs parents ça. Autant, et puis on va voir le trajet après de l'être humain dans sa vie. Je ne pense pas que ce soit... ça influence quoi que ce soit.
Non, mais par contre, c'est vrai que... Enfin, c'est de notoriété publique qu'il faut faire l'amour enceinte et que c'est bon et que c'est positif, tu vois.
Bon, en fait, je sais pas s'il faut. Enfin, c'est-à-dire cette injonction-là.
Non, mais c'est bon. Enfin, non, c'est pas. Faut pas le faire, mais c'est positif et ça fait de mal à personne, au contraire.
Oui. Bah oui. Voilà. Oui, vraiment ce truc de ah mon Dieu, je vais éborgner mon enfant ouais. avec mon énorme
ouais,
tub. Les mecs, c'est
ouais,
vraiment beaucoup d'ego. Calmez-vous, vous n'avez pas, c'est pas possible.
Non, je pense pas que ce soit vraiment un délire de j'ai une énorme tub. C'est plus en fait, je ne connais rien du tout à comment ça se passe à l'intérieur et du coup, j'imagine que c'est juste là, tu vois. Alors que non, c'est quand même hyper loin, quoi. Enfin, ça va.
Tu me raconteras ouais. pour la fin de la grossesse, tu ah, verras. C'est nouveau.
Ouais.
Vraiment, c'est un truc où tu fais tiens. Que se passe-t-il ? C'est vraiment très étrange. Si vous aussi, vous avez vécu ce moment bizarre, dites-vous dans un commentaire en disant
bien sûr.
Ok, c'était chelou, je m'en souviens très bien. Voire même, je suis en train de le vivre, pourquoi pas. Donc en fait, là, vous en êtes au sixième mois,
ouais.
c'est ça ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que le fameux truc de la première écho, faut que tu m'en parles ? Vraiment, moi, je me souviens plus.
Ouais. Alors, voilà. Non, mais tu sais qu'en plus, la première écho. Je l'ai vécu juste après avoir écouté les épisodes avec McFly et Carlito et tout ça. Et je me souviens de Carlito qui dit, non mais, ou McFly qui dit, non mais moi la première écho c'était un truc de malade. Quand t'entends le son du cœur la première fois, moi je l'ai sur mon téléphone et je l'écoute de temps en temps et tout ça. Et genre, moi j'étais là, et je pense, alors je sais pas si j'ai eu trop d'attente du coup,
oui.
Mais je suis arrivé et déjà on arrive dans le cabinet du gynécologue et là j'entends. Et en fait, il y avait des travaux dans l'immeuble
ah,
et
relou.
Du coup, il y avait énormément de bruit. Du coup, j'étais ok. Et il fait bon, on va écouter le cœur. Et moi, je fais ouais, vas-y. Et genre, il met le son et tout ça. Et je fais ouais, ok. Bon, bah, d'accord. Genre, ça ne m'a rien fait du tout.
C'est pas grave.
Et après, j'ai passé deux jours à me dire est-ce que je suis normal ? Putain, mais j'ai pas de cœur en fait. Et tu vois, et en fait, non, je me suis.
Suis-je un père indigne ?
C'est ça, ouais. C'est, je l'aime déjà pas. Non, mais. Non, j'ai tout le temps de pas l'aimer plus tard.
Oui, t'as tout le temps de pas l'aimer plus tard et surtout ça ne détermine rien, c'est-à-dire ouais. que c'est un truc. Alors effectivement, peut-être que Histoire de Daron spoil certains trucs que moi par exemple j'ai découvert par ouais. la force des choses. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était surtout la vitesse du cœur. Mmh. Je sais pas si ça. Et je pense
pas du tout.
Rien.
J'ai entendu l'épisode où tu disais ça et j'étais là. Non, je n'ai même pas remarqué.
Ok. Non, très bien.
J'étais là, ok. Non, mais vraiment, je pense que ça, je suis passé à côté.
Ouais, c'est un examen médical, quoi. C'est, ouais. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, on s'en fout. Vis ton truc comme tu veux et tu te sens pas obligé.
Ouais, non, c'est ça. Ouais, non.
D'être un bon père des troisième mois.
Non, là, l'écho du. Pour le sexe est un peu plus. Marqué. Déjà parce que là c'était une écho chez un radiologue et en plus on était dans une ambiance hyper détente. Le mec dit ouais donc la grossesse c'est quoi, c'est au 28 mars et je fais bah moi je m'en souviens pas. Élisée qui lui dit ah non mais il était pas là et tout ça, et le mec qui toujours savait pas sur quel pied on s'était. What. Nous on était morts de rire donc c'était bien drôle.
Excellente vanne.
Excellente vanne.
Foutre le père mal à
l'aise. C'est ça. Et non, et pour le coup c'est plus impressionnant parce que c'est la seule écho où tu le vois vraiment en entier. Et puis puis nous on pariait à mort sur le sexe. Ce qui est très drôle c'est que
vous avez fait un pari chacun de vos,
en fait on était tous les deux persuadés qu'elle attendait un garçon. Surtout elle, moi c'était du 50-50, parce qu'en fait, moi, je ne peux pas savoir. Moi, je pense que les femmes enceintes ressentent... voilà, Lisette, dès la première semaine, elle a dit, je suis sûr que c'est un garçon. Donc après, bon, il y a 50% de chance. Hein, c'est quand même un des paris les plus faciles du monde à gagner.
C'est pas comme
quoi.
Si c'était un Pokémon. Quoi.
C'est ça. Mais... Non, et par contre, et là, on va arriver sur une partie intéressante, c'est que...
Le mec...
Ouais.
Le mec autotise son récit.
C'est ça.
Arrête.
Si vous avez loupé jusque-là, par contre, là, il faut écouter. non. Donc, en fait, le radiologue, à ce moment-là, nous dit, bon, je peux pas encore vous dire si c'est un garçon ou c'est une fille, mais il y a plus de chances que ce soit un garçon, parce qu'en gros, il y a le bourgeon indifférencié. Et le truc, souvent, c'est que s'il pointe vers le haut, on estime que c'est, il y a plus de chances que ce soit un garçon. Et s'il pointe plutôt vers le bas, il y a plus de chances que ce soit une fille. Moi, pour le coup, je vois l'écho et je me dis, ouais, les gars, clairement, ça ressemble à une espèce de petit doigt. Je ne vois pas comment ça va pouvoir devenir un clitoris après. Enfin, genre, moi, pour moi, ça va pas devenir une fille, quoi. Et
parce que t'es expert.
Parce que je suis pas du tout expert, mais je vois le truc et je me dis, non, mais c'est un zizi, quoi. Et en fait, quand on a eu du coup, on a eu une autre écho après. Avec le gynéco, et il nous a dit, bon, vous voulez savoir le sexe? On a dit, ouais, ouais. Il a dit, ok, bon, vous pensez quoi? On a dit garçon. Il fait, ouais, ouais, c'est bien un garçon et tout ça. Donc là, pour le coup, pas de souci. Et en fait, on rentre à la maison. Et genre, sur le chemin, Lisa me fait, ça va, t'es pas trop déçu que ce soit un garçon? Je fais, non, c'est cool. Il fait, ok. Je fais, et toi? Il dit, non, c'est top. Franchement, il est en bonne santé, tout va bien pour l'instant. Non, c'est cool. Et le soir... On en reparle un peu et elle fait ouais. En fait, je suis quand même un peu déçu. Je dis bah moi aussi. Et elle me fait et je culpabilise d'être déçu. Et je fais bah moi aussi. Et en fait, on commence à discuter du coup là-dessus parce qu'on discute beaucoup. Et en fait, il y a plein de raisons. Bon, Lisa, elle a peur. Alors, si mon fils écoute ça dans 10 ans, on t'aime énormément. Il n'y a pas de souci.
C'est pas, ça ne change rien.
Non, c'est juste que, en fait, il y a plein de raisons à ça. Lisa, en tant que femme, sait comment grandit une fille et du coup se disait, je serais plus à l'aise.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Pour élever une fille parce que je sais comment ça fonctionne et tout ça. D'un autre côté, elle se dit mon fils sera amoureux de sa mère, c'est hyper cool. Donc voilà. Et moi, c'était un truc un peu plus complexe de me dire je me considère comme féministe, je lis Mademoiselle depuis pratiquement le début, j'ai lu énormément de choses sur Mademoiselle et plein d'articles et j'ai eu des idées préconçues, qui ont été déconstruites grâce à des articles de Mademoiselle et des témoignages.
Oh là là.
Ce qui veut dire que aujourd'hui, je serais hyper fier d'avoir une fille, comme toi, tu as été hyper fier d'avoir des filles, pour les aider à grandir dans un monde qui est encore... comment dire ?
Difficile
pour elle, mais qui est en train de changer, en tout cas plus qu'il y a 40 ou 50 ans, et pouvoir les aider à les faire grandir, enfin à pouvoir aider ma fille à la faire grandir en lui disant il n'y a pas de profession qui te soit interdite, tu peux faire tout ce que tu veux, t'as envie de faire du basket, de la boxe, du foot, vas-y, t'as envie de jouer avec des camions de pompiers et tout ça, vas-y, y a rien ne t'est interdit, et je vais t'aider à te donner les armes pour combattre les mecs qui seront misogynes et qui te diront c'est normal que tu gagnes moins ou enfin voilà. Et j'étais hyper fier de ça. Et surtout parce qu'en fait, ça me rassurait plus parce que j'ai plein d'outils que j'ai accumulés au fil des années pour justement aider ma fille à se construire comme ça.
Tu avais envie de transmettre ça.
Voilà. Et je pense que tu ne démentiras pas ça. La déconstruction de la masculinité, on en est quand même un peu au balbutiement. Et du coup, il n'y a pas encore grand-chose. Voilà, Mimi, il dit elle-même dans son podcast The Boys Club. Hein, pour ceux qui n'écoutent que Histoire de Daron, écoutez The Boys Club, c'est trop bien.
C'est vrai. Voilà, le lien dans les liens du podcast.
Mimi dit quand même, moi, je ne voulais pas monter ce podcast, j'attendais qu'il y ait un mec qui le fasse. Et comme il n'y a pas de mec qui l'a fait, bah, je l'ai fait moi, parce qu'en fait, je trouvais ça important. Et c'est vrai, il y a très... peu de choses actuellement. Il n'y a pas de magazine qui parle de ça pleinement. Il y a un podcast, peut-être plus, mais aussi, surtout aux États-Unis, je pense, qui parle de masculinité. Et en fait, bah c'est pour ça aussi que je dévore les Boys Club depuis quelques semaines, parce que j'ai besoin... Bah non, mais c'est ça. Je me dis... Ok, genre, je suis complètement démuni face à la naissance d'un petit garçon. Et moi, qui ne suis pas un garçon... viril, etc. J'ai énormément peur. Ma plus grande peur, c'est que mon fils devienne un compte footballeur qui traite les filles comme de la merde.
Beaucoup de clichés dans tes.
Ouais,
dans,
je sais. Ouais.
Bon, ok, je comprends
voilà,
ce que tu veux dire.
Devienne un gros con de mec viril qui pense que les femmes sont inférieures. Tout ça. Alors, après, on dit toujours, il n'y a pas de raison que. Enfin, s'il a des parents OK, il n'y a pas de raison que lui soit pas OK, quoi.
Alors, oui et non, parce que après, tu as l'entourage aussi qui est compliqué. Et moi, l'un des trucs qui fait que je suis à la fois heureux d'avoir des filles et heureux de ne pas avoir un petit mec à éduquer, je trouve que c'est que aujourd'hui, tu donnes aux filles des trucs en plus, entre guillemets, par rapport à ce que la société attend d'elles. C'est-à-dire, tu leur files de la confiance en elles, tu leur files justement... une possibilité de pouvoir faire plein d'autres choses. Et je trouve que par rapport à ce que tu files, enfin, tu retires aux garçons des choses par rapport à ce que la société peut attendre d'elles, c'est-à-dire de la virilité. Alors, tu leur en amènes d'autres, bien sûr, et tu leur en amènes d'autres choses, mais c'est d'autres choses que la société n'est pas encore prête à accepter de la part des garçons. Et en gros, tu as le droit d'être, enfin, sois gentil avec les filles. De base, la plupart des autres petits mecs, quand tu vois que les autres petits mecs, ils bolossent les filles ou alors ils bolossent entre eux, et que toi, tu apprends à ton mec, bah, peut-être juste respecte ton prochain et éventuellement le consentement qui va avec, tu le fais un peu passer pour un. En tout cas, peut-être que ça changera d'ici à 5 ans, enfin, 3-4 ans, quand ton homme sera à l'école, j'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que c'est un truc qu'on leur enlève aux garçons, et je trouve que ça, c'est compliqué à transmettre. Je sais pas si ça, je pense pas que ça te rassure, mais en tout cas, c'est cool que tu te renseignes.
Non, mais j'ai réussi un peu à revenir de cette angoisse, notamment parce que je me suis dit, j'aurais adoré avoir des filles pour réussir à relever le challenge d'en faire des, enfin d'en faire. C'est pas moi qui façonne mes filles non plus, mais de leur donner un peu les armes.
Très patriarcal. Très paternaliste. Hein, bravo.
C'est ça, ouais, c'est ça. T'arrives à être hyper patriarche dans une démarche féministe. Non, mais voilà. Enfin, j'aurais été fier un peu d'arriver à relever ce challenge, mais en même temps, je trouve le challenge d'arriver à élever un petit mec qui soit féministe, en fait, ouais. Hyper intéressant aussi.
C'est clair.
Peut-être plus compliqué parce que moins de ressources actuellement autour de ça et moins de réflexion et le fait qu'on en soit au début.
Bah, t'es en train d'y contribuer, par exemple.
Avec ton récit. J'essaye. Non, mais tu vois, j'ai lu l'article là, sur Mademoiselle d'une fille qui était nounou et qui se retrouvait face à un petit garçon de 4 ans qui lui disait non, mais moi, je veux pas le bol rose. Et elle qui se demandait, mais d'où ça vient? Je comprends pas. Et le lendemain, quand elle s'apprêtait à lui donner une glace rose avec sur la boîte une princesse, d'avoir le père qui arrive à ce moment-là, qui rentre du boulot et qui dit « Non mais attends, tu vas quand même pas manger ça. T'es sûr que tu veux cette glace-là ?» Et genre... Moi, je veux pas ça du tout, tu vois. J'ai vraiment envie, si je me balade dans les rayons du supermarché et que mon gamin... J'ai entendu un boys club l'autre jour. C'était qui ? Ah, j'en ai écouté tellement que du coup je mélange tout. Il y avait un des invités qui disait que sa mère était assistante sociale, je crois, et du coup très féministe et tout ça. Une année à Noël, il avait demandé un camion Barbie, qu'elle lui avait offert un camion Barbie et que. Il avait adoré ce camion et il disait ce truc hyper intéressant et il l'a dit, je pense inconsciemment, il disait. Pour moi, c'était trop bien. C'était juste un... Alors, je sais plus ce que c'était la marque qui c'était, mais genre un... Je sais pas, genre un Hot Wheels, mais version géante, tu vois. Donc, c'est-à-dire que dans sa tête, c'était un jouet de garçon.
C'était pas ce genre.
Mais en plus gros. Mmh. Et Et il disait, j'étais hyper triste quand 2 ans plus tard, elle l'a vendu, quoi. Et c'est trop cool. Moi, j'ai vraiment envie... Et je trouve que on permet plus... à des petites filles de jouer avec des Lego, des trains, des Playmobil et des petites voitures et tout ça, qu'on permet à des garçons de jouer avec des Barbie, parce que je pense qu'il y a toujours cette espèce de peur insensée de si mon fils joue avec une Barbie, il va devenir homosexuel. Mm-hmm. Ce qui déjà n'est pas une maladie. Oui. Rappelons-le. Non, et puis surtout, moi, je ne crois absolument pas. Mon frère est homo. Et je ne pense pas un instant que mon frère est devenu homo parce qu'il a joué avec les jouets de ma sœur quand il était petit. Mon frère homo parce qu'il est homo. Moi, je pense vachement au fait que quelqu'un qui est homosexuel naît homosexuel. Enfin, je pense pas que tu deviennes homo, tu vois. Mais en même temps, enfin.
Et puis c'est complètement idiot parce qu'il y a des homosexuels qui sont extrêmement virils.
Bien sûr.
Donc ça n'a strictement rien à voir avec le. Le fait de leur mettre des jouets de filles entre les pattes, quoi.
Non, bien sûr. Et puis même, en vrai, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, si je me trompe et qu'en fait, les garçons peuvent devenir homosexuels parce qu'ils jouent avec des jouets de filles, on s'en fout s'il est plus heureux comme ça. Enfin, si finalement, à 20 ans, il dit « Bah ouais, mais je remercie mes parents de m'avoir filé des jouets de filles parce que en vrai, s'ils m'avaient filé que des jouets de garçons... » Et bah peut-être que je serais à faire l'amour avec des femmes, mais en fait, ça me ferait pas kiffer parce que genre, je sais pas ce qu'il y a au fond de moi, quoi.
Mais c'est très cool, ton comment dire, que t'aies réussi à switcher de point de vue et de te dire, ok, finalement, je vais essayer de faire d'un garçon un petit garçon féministe. Et après tout, ça amènera aussi autant de positifs à la société que de faire une petite fille qui peut faire ce qu'elle veut, quoi.
Ouais, bah j'espère. Après, c'est plus flippant. C'est plus flippant parce que pas d'exemple. J'ai zéro exemple autour de moi. J'ai zéro exemple même de... Alors, j'imagine qu'il faudrait que je recherche s'il y a des livres et tout ça. Je pense qu'il y a des livres déjà dessus. Mais tu vois, genre, par exemple, si tu avais eu un fils, tu vois, genre, il y a, par exemple, j'entendais Carlito qui disait... Moi, mes garçons ont les cheveux longs et c'est cool, tu vois. Et je sais que Lisa veut que... Lisa adore les garçons avec les cheveux longs et tout ça. Et elle m'a dit, moi, je veux que mon fils ait les cheveux longs. Et je lui ai dit, bah, pff, ok, si tu veux. Bon, après, s'il râle tout le temps parce que ça le fait chier, on lui coupera les cheveux. Hein, on va pas non plus en faire une espèce de poupée, tu vois. Enfin, on va se calmer. C'est aussi un peu lui qui décide. Mais tu vois, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a que des petits trucs comme ça pour essayer de... Ok, je veux faire en sorte que d'élever un enfant dans des valeurs de les garçons peuvent aussi avoir des cheveux longs et il n'y a pas que les filles qui ont des cheveux longs et les filles peuvent avoir des cheveux courts et c'est ok et tout ça. Mais c'est des petits trucs, tu vois. Genre, il n'y a pas encore de trucs.
Mais en fait, je pense que peut-être tu te prends trop la tête. Alors, je comprends l'idée d'aller chercher, d'aller piocher. Mmh. D'ailleurs, ça peut être une vraie histoire. C'est-à-dire que si vous êtes un garçon et que vous avez la sensation que votre daron vous a élevé avec des valeurs féministes et égalitaires, envoyez-moi un mail à Histoire de Daron, Histoire avec Canès, Daron avec Canès. En tout cas, demandez à votre père de m'envoyer un mail, ce serait avec grand plaisir que je le recevrai. Mais c'est vrai qu'il y a, peu d'histoires pour l'instant. Peut-être que la meilleure façon de faire, c'est juste simplement d'élever ton môme comme un être humain.
Oui, comme un. Ouais, non, mais c'est ça, mais bien sûr, mais je pense, hein, comme un individu à part entière, et juste de se mettre une espèce de discipline pour essayer de tu sais, quand tu parles à ton môme, t'écouter parler et analyser un peu, et te dire je suis pas tombé dans un putain de cliché de merde là à ce moment là enfin voilà, essayer de si à un moment je dis voilà, et pareil avec la mère, je pense que c'est un travail à faire vraiment avec la mère, de dire sérieusement, s'il y a des moments où je balance des insanités que je reproduis parce que j'ai été élevé dans ce schéma là etc., dis-le moi. Que ça se produise une fois et pas deux, quoi.
Au final, t'as plutôt peur de tes propres préjugés qui sont peut-être, enfin qui sont peut-être, ou je ne sais pas d'ailleurs, intégrés.
Ouais, conditionnés par ouais. par la société dans laquelle j'ai grandi, etc. Enfin,
puis après, tu vas faire des conneries.
Non, mais bien sûr. Mais
et c'est pas grave.
J'espère.
Et on est tous la somme des conneries de nos parents.
Ouais, j'espère. J'espère. Mais ça va. Après, moi, j'ai eu du bol. J'ai pas été élevé dans un schéma masculiniste. Moi, j'ai un père. Alors, pour faire la petite histoire très rapidement, en gros, j'ai été élevé principalement par ma mère jusqu'à mes 12 ans. Enfin, 11 ans et quelques. Et quand j'avais 11 ans, ma maman est décédée d'un cancer. Et mon père, qui n'était pas du tout présent jusqu'à cet âge-là, qui était plutôt qui rentrait tard du boulot et avec qui on chahutait un peu et qui était là pour nous engueuler quand on faisait des conneries et nous mettre une fessée quand on allait trop loin, lui a été extrêmement bouleversé par la mort de la femme de sa vie, parce que mes parents ne s'engueulaient jamais et étaient vraiment fous amoureux l'un de l'autre. Et en fait, j'ai eu deux pères. J'ai eu un père justement un peu dans un schéma traditionnel, un peu viril, je rapporte l'argent à la maison, machin et tout ça, jusqu'à mes 11 ans. Et à mes 11 ans, j'ai eu un père qui est devenu la somme d'un père et d'une mère, et avec qui j'ai commencé à discuter de tout, qui lui a vachement ouvert son cœur, qui s'est rendu compte que, justement par excès de virilité, il n'avait jamais dit à ma mère qu'il l'aimait. Tu connais ce truc, tu sais, genre, c'est un truc vraiment de l'ancienne génération. C'est les garçons disent pas qu'ils aiment.
Ils expriment tout simplement pas leurs sentiments.
Ils expriment pas leurs sentiments. Mais moi, c'est pas la première. Mon père est pas le premier que j'ai entendu dire. Un homme, tu vois, qui dit non, mais moi, tu sais que je t'aime, mais je te le dirai pas. Enfin, je dis pas je t'aime. Je dis moi aussi quand la femme dit je t'aime. Mais si elle me dit mais dis-le-moi, je dis non, je le dis pas. Et mon père était hyper attristé. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué dans mon enfance, tu vois, mon père qui me dit « J'ai jamais dit à ta mère que je l'aimais, et donc je te dis « Je t'aime, j'aime ton frère, j'aime ta sœur, et je vous le répéterai parce que c'est une des erreurs que j'ai fait dans ma vie, tu vois. » Et du coup, après, j'ai eu un père qui m'a élevé en étant la somme un peu des deux parents, qui s'est vraiment ouvert de ouf, qui parlait, machin. Et maintenant, j'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast, parce que sinon, il va être un peu saoulé que je dis ça, mais en fait, il a un peu fait ça. C'est drôle, mon père a un peu déconstruit tout ça, et là, maintenant, il est un peu dans une période où il a un peu 20 ans, enfin, genre, quand je parle de ses relations amoureuses avec lui, j'ai l'impression d'être face à moi quand j'avais 20 ans et que je savais pas encore bien comment fonctionnait l'amour, tu sais. C'est un peu une espèce de truc chelou.
6 mois ?
Ouais.
C'est la dernière ligne droite.
Ouais.
Comment ça se passe ? Comment tu l'appréhendes ?
Là, ça va. Là, on a.
T'as lu des trucs ou pas ? Pardon, excuse-moi, je te coupe. Mais
non. En fait, on a le gros bouquin. On a un gros bouquin qui s'appelle « J'élève mon enfant », qui est visiblement un truc, un classique, qui j'ai l'impression. Alors, je vais pas faire le mec prétentieux, hein, mais je pense que quand t'as un peu de bon sens, il y a quand même beaucoup de choses que tu lis en disant oui, bah ouais, enfin, tu vois, genre, oui, alors vous savez, un enfant, ça s'élève à deux, écoutez la maman, oui, bah oui, merci.
Mais je pense que pour.
Pour beaucoup, oui, oui, pour beaucoup, c'est très. Bon, bah, l'enfant, c'est la maman, puis voilà, quoi. Et d'ailleurs, enfin, Lisa le voit très bien, elle est sur des forums, tu sais, de femmes enceintes, et il y a vraiment des trucs. Genre, hier soir, elle me lisait un commentaire d'une meuf qui disait « Ouais, j'ai demandé... là, normalement, mon congé mat commence dans 2 semaines, mais là, j'ai demandé à la gynéco de m'arrêter parce que entre le boulot, la cuisine, le ménage, les lessives et l'entretien de la maison et tout ça, et les démarches administratives et tout ça, j'en peux plus. » J'étais là. Sinon, elle peut peut-être un peu demander au père qu'il s'occupe du ménage, de la lessive, des démarches administratives, de l'entretien de la maison, non ? Parce qu'elle est quand même en train de fabriquer un humain, donc peut-être que lui, qui ne fait rien actuellement, il peut peut-être un peu participer. Donc oui, je pense que, voilà, c'est, comme c'est pas évident pour tout le monde, ce bouquin est important. Non, là, actuellement, on est très attentif à est-ce que le nombril va popper ou pas. voilà, c'est le truc qui nous obsède en ce moment. On parle énormément du nombril qui va popper ou pas. Pour l'instant, il est là. Au secours, laissez-moi sortir. Et on pense qu'il va popper. On a parié là-dessus.
T'appréhendes pas plus que ça, la fin de l'accouchement ?
Non, ça va.
Ouais.
Tu sais, j'ai posé cette question hyper conne qui a énormément fait rire ce jeune homme sage-femme qui est venu dans le podcast. Oui. J'avais demandé s'il fallait aller du mauvais côté, entre guillemets.
Oui, c'était toi qui avais posé cette question.
J'avais été hyper vexé parce qu'il avait dit... ouais, je sais pas si c'est un délire masculiniste ou quoi que ce soit. Et genre, j'étais en train de courir en écoutant le podcast et je me suis arrêté, j'étais là. Putain, j'aimerais tellement lui répondre.
Qu'est-ce que mais tu voudrais répondre à ce bon Harold alors?
Non, rien, c'est pas du tout un délire masculiniste. J'ai pas envie de voir comment ça se passe plus que ça. C'est pas de la curiosité déplacée, tout ça. C'est juste que tu te retrouves dans un moment qui est où t'es tellement impuissant qu'en fait, t'as juste envie de faire le maximum pour aider, et même si tu doutes que ça va pas aider la mère et ça va pas aider l'équipe médicale que t'ailles de l'autre côté, tu te dis j'en sais rien, c'est un peu comme si
est-ce que je peux vous tendre une paire de ciseaux?
Non, mais ouais, tu vois, c'est ça, c'est genre, c'est un peu comme si t'avais un mec qui faisait un arrêt cardiaque dans la rue et que t'avais un type qui commençait à lui faire, enfin une personne, n'importe quoi, qui commençait à lui faire le massage cardiaque, qui disait « Aidez-moi, j'ai besoin de ça !» Et tu disais « Ah ouais, mais non, moi je vais pas me salir les mains par contre, parce que j'aime pas trop ça, la vue du sang, ça me rebute un peu, du coup, bon courage, hein, allez, salut !» Et en fait, c'est un peu ce côté-là, c'est j'ai
l'aspect
peur...
L'aspect d'être utile, c'est
ouais,
ça.
Ouais, j'ai peur en ne voulant rester que du bon côté... de passer pour le mec qui a pas envie, tu vois, genre de d'aider plus que ça, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ça m'a rassuré d'entendre...
Il a très bien répondu.
Ça m'a rassuré d'entendre Harold qui dise « Mais moi-même, ça me dérange, en fait, quelqu'un de ce côté-là, parce qu'il sert à rien, et moi, je fais mon truc, et voilà. » Mais moi, c'est plus, tu vois, dans un délire de... Si lui est utile de ce côté-là, peut-être que moi je serais utile de ce côté-là aussi,
oh là
même
là
si c'est
là.
Pas mon métier.
Laissez les professionnels faire leur travail, monsieur Maxime. C'est pas possible, ça.
Non, mais voilà. Mais non, mais je pense que c'est vraiment le délire d'impuissance, quoi.
Alors voilà, j'allais dire en plus, c'est vraiment génial parce que je pense que c'est une très bonne entrée en matière sur l'impuissance que tu vas ressentir d'une manière générale par rapport à parfois des épreuves que tes enfants vont traverser ou que ta femme avec tes enfants vont traverser. Et parfois,
tu disais la douleur par procuration et tout ça.
Faut laisser, faut let it go, quoi, tu vois. Faut savoir lâcher prise.
Ah ouais, non, mais je pense que... Et pourtant, je suis pas du tout comme ça habituellement et je suis plutôt à dire, on verra bien ce qui arrive et tout ça et puis on va arrêter d'être contrôle fric à mort.
Mais là, c'est ton rejeton,
ouais,
c'est ça.
Non, mais il y a même pas ça, c'est que moi, je suis très... je suis très frustré. Par le fait, en fait, genre, moi, dans mon monde idéal, la mère porterait l'enfant 4 mois et demi et le père porterait l'enfant 4 mois et demi. Je suis très frustré d'avoir le beau rôle, quelque part. Et c'est quelque chose, tu vois, genre, par exemple, enfin, voilà, quand, à la question c'est quoi pour toi être un homme, bah, c'est avoir le beau rôle, quoi. On a vraiment, et je pense que les mecs ne se rendent pas compte, on a vraiment énormément de chance. Et il faut en prendre conscience parce que non seulement on a de la chance grâce à ce que la nature a fait, entre guillemets, on n'a pas nos règles, on porte pas l'enfant, y a plein de dérangements, enfin d'influence des hormones et tout ça qui nous atteignent pas, et en plus on est des connards à pas accepter qu'elle soit payée autant que nous, qu'elle fasse, enfin tu vois, genre c'est et donc voilà, en fait moi c'est ça, c'est le truc d'impuissance de me dire j'aimerais en faire plus, quoi.
T'as pas ressenti ce truc, toi, de que moi j'ai ressenti, je sais plus, à peu près au 4e, 5e, 6e mois, je sais plus, quand l'enfant commençait à devenir enfin que tu commençais à pouvoir le sentir bouger, ouais, etc. D'avoir ce truc de c'est un truc que je ne vivrai jamais, c'est-à-dire c'est un truc que je ne pourrai jamais faire, porter un enfant, et qui moi m'a vraiment pour la première fois de ma vie, hein, parce qu'avant ça j'en avais pas pris conscience, ramené à ma condition de mec animal, tu sais,
ouais,
limite en tant qu'espèce. Ok, c'est un truc, alors je pense qu'on peut ressentir plein de choses. Tu sais, il y a cette fameuse vidéo des mecs qui testent les douleurs, ah oui, à l'accouchement, là.
Ouais.
Et je pense que c'est vraiment un truc. Alors là, c'est en Hollande, je pense. Mais si je pouvais tester ce truc-là de façon assez simple, je pense vraiment que j'aimerais le tester. Ne serait-ce, alors, pas pour, juste pour le délire d'avoir mal, mais pour le délire de ressentir ce que ça fait.
Ouais.
Et de la même façon, qu'est-ce que ça fait, en fait, d'avoir justement cet être en soi ? C'est un truc que, bah voilà.
Ouais.
Physiologiquement, je ressentirai jamais.
Alors moi, j'ai pas eu parce que toi, c'est quoi, c'est plus de la jalousie ou de la curiosité, enfin quand tu te dis ça.
C'est pas de la jalousie parce que j'avais pas envie ouais. C'était pas un sentiment négatif, si tu veux, c'était plutôt il y avait une forme de tristesse aussi, tu ouais. vois, de dire c'est vraiment un truc que bah je ne pourrai jamais vivre dans l'histoire de ma vie, quoi, tout simplement. Alors, peut-être que c'est mal placé, je sais pas, en fait. Comme
non. Alors. Non, je pense pas personnellement que ce soit mal placé. Après, non, moi, j'ai pas eu ça. Par contre, moi, je pars énormément du principe que même si j'essaie de me mettre à sa place, je n'ai absolument aucune foutue idée de ce qu'elle peut ressentir. Donc, elle a droit à tout, quoi. Enfin, genre, franchement, Lisa est la meuf la moins relou du monde. Et enceinte, elle est un peu relou. Donc j'ai vraiment quand même du bol. Et je dis rien parce que, franchement, mais elle pourrait être relou puissance 1000. Enfin, franchement, elle est en. Elle...
Je pense que ça veut rien dire, relou, en plus, tu vois. C'est...
Non, mais elle est un
par
peu.
Rapport à...
Oui, non, mais elle est un peu casse-pied, elle est un peu changeante, elle est un peu. Bon. Mais franchement, enfin, c'est tellement rien. Non, mais c'est surtout le. Ouais, ce truc de... Elle me parle beaucoup de l'impression d'avoir un corps étranger qui grandit à l'intérieur de toi, qui est... Puis, tu sais, il y a plein de trucs. Le fait que tous les organes remontent et que, du coup, genre, quand tu manges et tout ça, c'est plus du tout la même chose. Enfin, j'ai essayé de mettre des mots là-dessus, de lui dire, mais, par exemple, quand tu manges, genre, c'est quoi la sensation et tout ça ? Elle me dit, bah, c'est pas une sensation d'étouffement, c'est une sensation de promiscuité, enfin de promiscuité interne, quoi. De tu te rends compte que c'est un peu tout bloqué, quoi, à l'intérieur. C'est vraiment c'est tout poussé sur les bords et c'est un peu compliqué. Mais ouais, non, moi je j'ai pas eu cette sensation là, mais par contre vraiment de me dire. C'est, à mon avis, c'est indéfinissable, quoi, ce qu'elle vit. Enfin, c'est incroyable. C'est fou.
Qu'est-ce que tu dirais à ton môme s'il écoute ce podcast dans 10 ans ou dans 15 ans, mettons, parce que 10 ans, c'est peut-être un peu jeune. 15 ans, l'adolescence, ça marche bien, je trouve.
Je sais pas. Moi, j'adorerais... Moi, mon seul et unique but, c'est que si mon gamin, dans 15 ans, écoute ce podcast, il puisse dire « Bah franchement, je suis fier de l'éducation que j'ai eue et c'est cool. » C'est mon seul objectif, en fait. Mon seul objectif, c'est... voilà, moi, je suis fier de mon éducation. Je pense que mon père m'a inculqué des bonnes valeurs et c'est cool. Il a fait des conneries comme n'importe quel père, mais jamais des trucs qui m'ont conditionné ensuite à avoir des réactions négatives. Et moi, c'est vraiment juste ça. Et non, aussi, je dirais aussi que c'est pas parce qu'à la base, on voulait plus une petite fille qu'un petit garçon que... Enfin, voilà. Moi, je sais que... Non, mais je sais que ça peut... Moi, par exemple, en fait, mon grand frère a 9 ans de plus que moi, ma grande sœur a 7 ans de plus que moi. Et donc, en gros, bah voilà, moi, j'ai 7 et 9 ans d'écart avec mon frère et ma sœur. Et donc, ça m'a jamais posé aucun souci. J'étais là, bon, bah, je suis le petit dernier, c'est comme ça et tout ça. Jusqu'à un jour, on a un repas de famille, j'ai entendu ma tante dire « Ah bah oui, en plus, Maxime, il n'était pas voulu. » Et là, je me suis dit « What ?» Et j'avais genre 12 ans et ça m'a trauma de me dire « Putain, en fait, je n'étais pas voulu. » Donc, j'ai commencé à en discuter avec mon père et tout ça. Et mon père m'a dit « Ouais, non, alors, c'est pas complètement ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec ta mère, on voulait 2 enfants. On a eu 2 enfants. Puis après, voilà, il s'est passé quelques années, ils ont grandi et tout ça. » Et un jour, ta mère est venue me voir en me disant « Je veux un troisième enfant. » Et je lui ai dit « Non, franchement, non, on en a déjà 2, c'est bien et tout ça. » Et elle lui dit « Non, mais vraiment, je veux vraiment un troisième enfant. » Il était là « Non, non, non. » Il fait un peu de résistance. Et au bout d'un moment, il la voyait tellement malheureuse de pas avoir... Enfin, ça n'a pas duré une éternité, mais peut-être 1 ou 2 mois, que Jean, il lui a dit « Ok, on essaye une fois. Si ça marche... c'est que c'est le destin, et si ça marche pas, c'est que ça doit pas se faire. » Et ils ont essayé, et ça a pas marché.
Ah, ok.
Mais non, parce que ça marche jamais, ces trucs-là. Et non, ça a pas marché. Et en fait, mon père a fait « Ouais, bah allez, vas-y, on va essayer jusqu'à ce que ça marche, parce que de toute façon, maintenant, on est parti, quoi. » Et du coup, voilà, et après...
Oui, donc ça n'a strictement rien à voir avec...
Non.
Maxime n'était pas voulu.
Bah non. Mais tu sais, quand t'entends ça la première fois à 12 ans, tu te dis « Oh !» Mais tu vois, il y a des phrases
et
comme
ton père,
ça,
il était là autour de la table à ce moment-là ou pas?
Ouais, et je me suis... Mais on était, c'était un peu repas familial, on était plein. Et je me suis barré, moi j'avais... ouais, je devais avoir 11-12 ans, je me suis barré genre... je sais pas si j'ai pleuré ou pas, mais je me suis barré de la table, j'étais...
Ton père, il s'en est rendu compte sur le moment?
Non, sur le moment, non.
Ah ouais, putain.
On en a parlé plus tard et il m'a expliqué, mais ouais... Et aujourd'hui.
Putain, moi, la tante, je lui éclaterais tellement la gueule. Quoi.
Ah ouais, c'est... non mais.
Ça mérite non, mais... un coup de tête balayette, quoi.
Non mais mon père s'est vachement bien rattrapé depuis. Mon père m'a dit plusieurs fois. Parce que du coup, il y a une grosse différence dans notre famille, c'est que mon frère et ma soeur ont été élevés presque exclusivement dans le schéma que moi j'ai connu au début de ma vie, c'est-à-dire par ma mère, avec un père qui du coup était là le soir et pour les mauvais moments, quoi. Et du coup, j'ai pas du tout la même relation avec mon père que mon frère et ma sœur ont avec mon père. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout la même relation avec mon frère et ma sœur que mon frère et ma sœur ont ensemble. Ils sont hyper fusionnels et tout ça. Et moi, je suis un peu un étranger au milieu de tout ça parce que j'ai pas grandi de la même manière qu'eux. Bah, différence d'âge et différence d'éducation aussi.
Oui.
J'ai beaucoup plus d'estime et de respect pour mon père que mon frère et ma sœur. Et voilà, et du coup, mon père, plusieurs fois, s'est mille fois rattrapé en me disant « Franchement, je pense que la plus belle connerie, enfin le truc le mieux que j'ai fait dans ma vie, c'est d'accepter d'avoir ce troisième enfant, justement parce que, voilà, il est... je pense que mon père n'était pas du tout dans un délire de... En fait, je pense que mon père a du coup mis en place une espèce de schéma de père moderne en étant du coup mon père et ma mère en même temps parce qu'il n'avait pas le choix, alors qu'à la base, lui, il avait dans sa tête un schéma de père classique du patriarcat, d'un mec né en 1952, tu vois. Et du coup, finalement, il a eu une espèce de petite... part d'éducation un peu féministe sans le savoir et sans le vouloir parce qu'il a été mis au pied du mur, quoi. Et c'est hyper cool, moi je suis hyper content de ça. Et lui est hyper fier aujourd'hui de se dire qu'il a aussi un vrai allié dans la vie qui est moi, qu'on s'appelle tous les jours et tout ça, ce qui n'est pas le cas de mon frère et ma soeur.
Waouh. On parle assez peu des pères en général dans l'histoire de Daron, c'est plutôt...
Alors que c'est hyper important.
C'est plutôt dans The Boys Club.
Ah, mais c'est hyper important.
Alors
parce
que oui, je suis d'accord.
L'éducation que tu vas donner, et surtout à un petit garçon, je pense que ça dépend énormément de l'éducation que tu as reçue toi, quoi.
Mais c'est assez rare, hein. Je disais, d'une manière générale, on a fait parler les invités du Boys Club de leur rapport à leur père et... c'est inexistant pour la plupart, quoi. Tu vois, c'est juste utilitaire. C'est on s'aime mais on se le dit pas. Et en fait, mon père est présent ou pas d'ailleurs parfois, mais il y a pas de réel échange émotionnel. Tu vois.
Et c'est pour ça que je suis hyper content. Moi. J'ai vraiment. Alors bon, ça s'est fait par la force des choses et j'aurais quelque part préféré évidemment garder ma mère, mais dans toute tragédie, il y a quelque chose de positif qui se passe. Et je pense que si aujourd'hui je suis l'homme que je suis, c'est aussi parce que mon père a réussi à passer de ce stade de père qui parle pas des émotions, qui est que dans le mauvais rôle, à un père qui s'est retrouvé à devoir discuter parce qu'il n'y avait plus que lui, quoi. C'est hyper important.
Merci beaucoup, Maxime.
Bah, merci à toi, Fab.
Bon courage pour la suite F1.
Merci.
Et puis bon courage aussi pour ce qui t'attend après, parce que tu sais que c'est que le début.
Ouais. Tu vois, je vais revenir dans 3 ans, je vais dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie la première fois ?
Et pourtant, c'est très authentique et c'est très cool. Merci beaucoup d'avoir partagé ça, parce que je pense que on n'a plus jamais la même vision, ne serait-ce qu'à partir du moment où la naissance arrive, t'as plus du tout le même regard sur tout ce que t'as pu vivre au quotidien pendant la grossesse. Donc, et c'était très cool que tu viennes parce qu'on a des sentiments et des émotions fraîches et nouvellement vécues, quoi. Donc merci beaucoup.
Merci
et
à toi.
À bientôt.
Salut.
Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron, ou alors sur Instagram, je suis sur Fab Florent, FabFlorent. Et je vous précise que même si vous écoutez en podcast, vous pouvez venir laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui le précisent. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu particulier, n'hésitez pas à m'écrire sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, je ferai en sorte de vous répondre. Je vous donne rendez-vous, moi, chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron, ici même, dans ce podcast. Le prochain, vous pouvez le noter, ce sera le lundi 5 novembre 2018. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.